pas vous, j'ai entendu dire que on pouvait vivre avec l'impression que dans la cave, il y a quelque chose qui a été enfermé. Comme des trucs qu'on ne veut pas voir, en fait. Et dans le salon, au-dessus, on fait bonne figure, on a un enfant préféré. Je ne sais pas où je vais, mais on a un enfant préféré qu'on aime bien, puis il y en a qu'on a enfermé en bas, qu'on ne veut pas voir. Et ça tape.
Oui.
Parce que voilà, je ne sais pas pourquoi.
Ça sent le vécu, ça.
Oui, parce que tu viens de parler d'énergie qui était enfermée, enfin, qui était pas vue, en fait, hein, qui te rend mécanique et pas conscient, en fait. Je ne sais pas pourquoi cette image d'enfant enfermé et donc, comment dire, contraint, emprisonné, c'est-à-dire, en fait, ce sont des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Plus c'est enfermé, c'est pour ça que je suis plutôt pour le fait de parler, de dire, de faire. Le fait que ce soit pas reconnu qu'il y ait ces enfants souffrants, tu vois ce que je veux dire, toi? Qu'il y ait donc ces sentiments d'insatisfaction, de frustration. Si c'est pas reconnu que c'est comme ça, on fait bonne figure, voilà, c'est ça. Avec un masque, en fait, de l'enfant sage, propre.
Et quelle est la question?
La question, c'est aller voir dans cet inconscient, en fait, ou subconscient, qu'est-ce qui fait qu'on est toujours propulsé dans l'avenir, éventuellement, pour la satisfaction, puisqu'il me semble que c'est le fait qu'on ne reconnaisse pas dans sa propre maison qu'il y a des choses qui sont enfermées.
C'est trop construit, c'est trop d'efforts, c'est pas la peine, tout ça. C'est juste, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Et peut-être c'est juste une tension corporelle. Ou c'est tout juste un sourire au print, pour faire bonne figure, comme tu dis. Et alors, juste être avec ça. Juste être avec le sourire contraint, la tension corporelle. Ah tiens, c'est intéressant, il y a un sourire contraint, il y a une tension corporelle. Ah oui, tiens. Être avec. L'épouser, l'enlacer. Et voir ce que ça devient, voir ce qui se passe. Quelles sont les pensées associées? Quelles sont les sensations physiques associées? Et être avec ça. Là, c'est plus comme... j'ai pas le mot, parce qu'observateur, témoin, tout ça, c'est trop froid. Tu vois? Un regard aimant posé sur ce qui arrive. Quoi que ce soit. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller dire peut-être qu'il y a un enfant dans le sous-sol qui tape à la porte. C'est pas la peine. S'il y en a un, t'inquiète pas, ça va se faire savoir. Et peut-être c'est complètement autre chose et tu auras la surprise de la découverte. Tu sais pas. En réalité, tu sais pas. Donc juste être avec ce qui est là, puis voir ce que ça devient. Comme ce matin, avec la peur, finalement, on tombe sur le drame de la mort. Tu vois, c'est inattendu. Mais c'est opportun parce que c'est ce qui émerge à ce moment-là.
Et en disant ce que j'ai dit, j'ai vu mon propre drame, mon propre scénario, mon propre film, ma propre construction, mon propre rêve, ma folie, en fait.
Ouais.
Mais bon, une folie tout à fait maîtrisée, hein. Presque.
Relativement anodine.
Voilà.
Tu vois l'histoire que tu te racontes et à laquelle tu crois.
Voilà.
Et là, celle-là, tu peux la regarder. Ah tiens, c'est ça l'histoire que je me raconte.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est marrant, ça.
Ouais.
Tu vois?
C'est un film d'horreur.
Ah oui, je me raconte, j'ai peut-être horreur des films d'horreur, mais moi je me raconte un film d'horreur 24 heures sur 24 et tout tourne en boucle.
Oui, c'est ça.
C'est vachement intéressant, tu vois. On peut arrêter ça aussi, tu vois. Tu peux juste dire, ah tiens, mais qu'est-ce que j'en sais si c'est ça? Est-ce que c'est vraiment vrai, ça? Généralement, c'est pas vrai. Donc, voilà.
C'est la croyance qui alimente le film.
Un peu vague comme question. C'est-à-dire que le je vais dire oui, c'est la croyance, déjà en la pensée moi, qui fait tourner le moteur. Qui fait croire au film.
C'est que ça. C'est ça qui fait tourner le moteur. C'est là, c'est
ah
principalement.
Oui. L'examen. Si vous vous souvenez de l'exemple qu'avait pris Ramana Maharshi, où il disait avec l'éveil.
C'est bien ciblé. C'est
avec bien. L'éveil, c'est comme un bateau dont on arrête le moteur. Le moteur est arrêté, mais le bateau continue sur son air pendant encore un certain temps. Ce qui veut bien dire aussi que tout ne se passe pas avec l'éveil, qu'il y a bien des choses qui se passent encore après. C'est-à-dire que les comportements légaux, donc ce que moi j'ai appelé l'ego hier, tout à l'heure, ce matin, les comportements mis en place continuent encore pendant un certain temps. En fait, jusqu'à ce qu'ils soient vus. Dès qu'ils sont vus, ils s'effondrent. Donc, le bateau continue sur son air. Vous croyez à la pensée moi, brum, le moteur est mis en marche, le bateau avance. La pensée moi est arrêtée, n'est plus crue, le moteur est arrêté. Alors il y en a, ils jouent. Je vois qu'il n'y a pas de moi, je vois qu'il y en a, enfin je crois qu'il y en a un, je vois qu'il n'y a pas de moi, ils remettent le moteur en route à chaque fois. Et hop, ça fait des. Enfin, le bateau continue, quoi.
Le moi et l'ego, c'est la même chose pour toi ?
Non, le moi, c'est. Je vais appeler. Le moi, il n'y en a pas. La pensée moi est une pensée qui, crue, donne l'idée d'un moi, fait croire qu'il y a un moi. En réalité, il n'y en a jamais eu. Donc, tous ceux qui parlent de d'effondrer le moi, de détruire le moi, de poursuivre le moi dans tous les sens, ou je ne sais pas quoi, non, il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais.
C'est pas la même chose que ce que dit Ramana par rapport au jeu qui prend sa source au niveau du cœur, non, c'est pas le même lien.
Alors, je sais pas exactement de quoi tu parles, parce que Ramana emploie la pensée je, donc moi je dirais la pensée moi,
la pensée
l'idée d'un moi, la pensée je, ça a été traduit comme ça, parce que ça n'est pas forcément très bien traduit. Ramana n'a jamais dit de se poser la question qui suis-je. Jamais. Traduit mot à mot, c'est quoi moi. Ce qu'on pourrait traduire par c'est quoi moi. Que suis-je serait un peu plus une approximation un peu plus juste, mais qui suis-je jamais parce que ça suppose l'existence d'un sujet. C'est quoi moi? Quoi moi, mot à mot, hein? C'est pas la même chose. Donc les traductions de Ramana vers l'anglais puis vers le français, hein? C'est pareil, le livre de Nisargadatta Maharaj, I am that, avec un T majuscule, c'est pas je suis, hein. C'est je suis ce qui est. Je suis cela avec un C majuscule. C'est pas je suis. Ce que je suis, c'est un entre-deux entre ce qui est et puis la croyance en un moi. C'est cela qui constate.
Le traducteur n'était pas veilleur.
Probablement. Et où j'en étais. Oui, donc Ramana Maharshi parlait de la pensée je. Enfin, ça a été traduit pensée je. Ce que moi je dirais, l'idée d'un moi, la pensée moi. D'accord ? Il disait que ce n'était qu'une pensée. Et regardez d'où ça provient. En fait, c'est une pensée qui apparaît, qui n'est pas pensée par quelqu'un. Si vous regardez, l'idée d'un moi apparaît à l'esprit. Mais il n'y a personne, il n'y a pas un moi qui pense moi. C'est une pensée qui apparaît. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est là ? Déjà numéro 1. Après, Ramana a parlé du « je » mais avec un « j » majuscule comme synonyme de ce qui est. Et il parlait aussi du « je suis ».
Le « je », dans ce sens-là, il expliquait que c'était la première pensée qui apparaissait dans le mental à travers ce « je » qui s'identifie en fait. C'est casser l'identification au mental et à ses...
Ah, je sais pas.
Quand je dis casser, c'est mes mots, hein, mais...
Oui, mais je sais, ça fait trop longtemps que j'ai lu tout ça, je sais pas. Oui.
Est-ce que pour toi, l'identification et la croyance, c'est la même chose? Ça veut dire que...
Là, je les prends comme synonymes le plus souvent. Ouais. Ouais,
parce que d'après ce que j'ai compris, pour toi, croyance, c'est identification à une pensée. Hein.
L'identification est une croyance à une pensée. Le plus souvent, je dirais. Je ne sais pas si c'est tout le temps. Souvent, je mélange un peu. Tu sais, les mots sont pauvres. Vraiment... Parce que qu'est-ce qui s'identifie? En réalité, il n'y a pas réellement d'identification. Si on regarde de près, ce n'est pas une identification. Ça colle, on pourrait dire. Tu vois, il y a accroche.
Oui, vu de la réalité ultime, oui. Il n'y a pas d'identification, mais vu de l'ego, évidemment.
Voilà, mais de quel point de vue, voilà. Donc, oui, mais le problème, c'est que placer du point de vue de l'ego pour montrer qu'il faut avoir un point de vue qui est une autre perspective, ça ne marche pas trop bien, tu vois. Donc, mais les mots sont pauvres, et puis on prend en plus des mots qui ont été déjà utilisés par plein d'autres gens parce que c'est plus facile, tu vois. Mais trouver les bons mots, moi, je ne saurais même pas exactement.
C'est le calvaire de celui qui est assis là.
Oui, mais c'est aussi le grand étonnement et le grand amusement. C'est qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. Tu vois, mais ça peut quand même pas s'empêcher d'essayer de trouver les mots, alors que ça sait très bien que ça peut pas. Mais il y en a d'ailleurs, ils ont choisi de se taire. Hein. Mais moi, je sais pas. Aujourd'hui, en tout cas. Mais identification est un mot que j'utilise de moins en moins, parce que je trouve pas qu'il reflète vraiment les choses.
Non, parce que c'est un mot quand même suffisamment précis, alors que... Ça veut dire que c'est un mot technique, en fait, on l'a emprunté à la psychologie. Ça veut dire, en fait, identification, ça veut dire identité. Ça veut dire, je, par exemple, égale, par exemple, ce corps. Ça c'est l'identification. Donc, ça vient de identité, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, la croyance, quelque part, forcément implique l'identification, ça veut dire l'identité.
Mais je ne sais pas.
Je suis cette pensée ou cette pensée est vraie.
Cette pensée est vraie, c'est pas la même chose que je suis cette pensée.
Donc alors ils sont différents alors en ce moment.
Ah oui, dans ce cas-là, oui. Si tu le vois comme ça, oui.
Et en fait, quand tu utilises le mot croyance, ça veut dire conviction. Ça veut dire une pensée qui est devenue pour nous une évidence. On suppose comme une évidence.
Qui est supposée vraie.
Voilà, supposée.
Sur laquelle on va s'appuyer, construire quelque chose. Okay. Qui va avoir des conséquences. Elle est crue. Une pensée crue. Parce qu'il n'y a personne qui la croit. Je dis exprès que ce n'est pas vous qui croyez les pensées. Elles sont crues de fait. Ça apparaît, quoi. Hein.
Comme il n'y a pas de réelle fondation, dès que c'est vu, ça fuit.
Voilà.
Génial.
Mais le voir, en faire l'expérience, direct.
C'est la racine de toutes les croyances. De toutes les souffrances.
La pensée crue est à l'origine de tous les mal-êtres, du plus petit malaise à la plus grande souffrance, définie comme psycho-émotionnelle. Je n'ai jamais vu d'exception.
Par exemple, je suis ce corps voué à disparaître, ça c'est une grosse souffrance.
Bah, si tu le dis comme une souffrance, oui.
Oui, ça c'est une
grosse souffrance. De toute façon, est-ce que tu es ce corps? Si on te coupe un bras, tu n'es plus toi-même alors?
Non, je ne le crois plus, hein. Mais par contre, je ne peux pas non plus dire je suis la conscience universelle, c'est un truc que j'arrive pas à dire non plus.
Mais non, parce que ça c'est une pensée.
Oui.
Mais par contre, fermez les yeux, essayez d'arrêter d'être.
C'est pas possible.
Et ça, tu sais que tu es.
Oui.
Donc tu peux pas dire je suis la conscience universelle, qui est une pensée crue, si tu y crois et que tu la défends. Mais quand tu regardes, quand tu es avec ce qui est là, tu sais que tu es. Tu n'as aucun doute là-dessus. Donc, tu peux te dire, y a être-té. Voilà. Après, tu. Tout le temps, peu importe quand tu regardes, tu peux voir qu'il y a être-té.
Mais pourtant, il y a confirmation de. Il y a une expérience. Tu dis, faites et fermez les yeux, je suis quelque part.
Je te dis pas de penser je suis, je te dis de regarder.
Non, justement.
Essaye d'arrêter d'être. Je te propose une expérience directe. Tu peux pas.
C'est une expérience. Mais à partir de l'expérience, on ne peut pas nommer l'expérience. S'il y a l'expérience, on ne peut même pas dire nommer l'expérience du moment.
Oui, tu la nommes après coup.
C'est ça,
en tout cas, au moment où je te demande de cesser d'arrêter d'être et que tu vois que ce n'est pas possible, tu sais que tu es. Mais en fait, tu l'as toujours su, ce n'est pas une expérience en ce sens-là. L'expérience, c'est de le révéler là maintenant. Mais en réalité, si tu regardes, tu sais que tu es et tu sais que tu as toujours été. Et tu sais que si tu regardes, tu sais que cette être-té, elle est tout le temps là. Que tu y penses ou que tu y penses pas, que tu en sois conscient ou non, que tu ailles bien ou que tu ailles mal, que tu sois malade ou en bonne santé, que tu sois jeune ou vieux. Tu le sais. Si tu regardes, tu le sais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si tu as un doute, regarde. Donc c'est pas une expérience. En ce sens-là, c'est pas une expérience, l'être-té. En ce sens-là seulement.
Quand je dis l'expérience, c'est-à-dire c'est quelque chose de vérifiable. C'est palpable, c'est tangible, c'est pas comme une pensée abstraite du domaine de la croyance, c'est complètement subjectif. C'est pas quelque chose qui. Ça dépend de chaque être humain. La pensée est différente. Mais là, dans le fait d'exister, c'est quelque chose qui est universel.
Oui.
Donc c'est quelque chose de tangible.
Oui.
À partir du moment où c'est tangible, ça peut être nommé. Comment dire ?
Non, pas forcément. Surtout, tu fais l'expérience de la conscience de l'être-té ou tu n'en fais pas l'expérience. Mais ça n'enlève rien à l'être-té. Ou pareil, tout à l'heure, je disais que tu le constates. Là. Ce qui est en train de se passer là maintenant, Gérard parle et fait des gestes de la main, tu le constates. Ceux-là qui le constatent, il est là tout le temps. Que tu en aies conscience ou non, il est là tout le temps. Et tu le sais.
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'être, et il y a aussi la conscience d'un objet dans la conscience.
Oui.
Le fait d'être, c'est pas une expérience, c'est être.
Exact.
Il n'y a pas quelqu'un qui fait cette expérience-là. C'est immédiat.
Si, mais c'est une autre histoire. Oui.
Ah ouais, voilà. C'est pas le moi, mais...
C'est pas le moi. Il n'y a pas de moi, là, ouais. Il n'y a pas l'idée d'un moi, là.
Si on prend l'image du miroir,
oui.
Il y a le miroir et les reflets du miroir. Il y a une simultanéité, mais les deux ne se confondent pas.
Oui.
Ce que je veux dire, dans le fait d'être, quand tu dis fermer les yeux ou pas, le fait d'exister est là.
Oui.
Mais ce n'est pas une expérience.
C'est en amont d'une expérience existentielle, oui.
C'est en quoi ?
C'est en amont de toute expérience existentielle.
Ouais.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une expérience pour valider cette existence-là.
Exact.
Donc en soi, c'est... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a constamment ce décalage entre le fait d'être et d'avoir une expérience qui confirmerait cette conscience-là.
Pourquoi parler de décalage ?
Je parle de décalage parce que dans ma recherche, c'était quelque part, à un moment donné, penser qu'il allait y avoir une expérience particulière qui révélerait cette conscience-là. Mais c'est une croyance.
Oui.
Qui
crée une attente.
Qui crée une attente.
Et en même temps, et quand tu regardes et que tu qu'il est vu et su de première main qu'il y a être-té, rien manque. Et c'est d'une simplicité enfantine. Et c'est ordinaire. Et il n'y a aucun doute sur ce fait. Et en tant qu'être-té, il est su, il est vu qu'il n'y a pas de moi. On n'y voit pas de moi, en tout cas. La question moi ne se pose même pas. La question de la séparation du manque n'apparaît pas non plus. N'apparaît pas non plus. La recherche s'est effondrée. Il n'y en a pas. En tant qu'être-té, il n'y a pas de recherche. Qu'est-ce qu'il est mort ? Mais c'est pas ça que j'attends. Je cherche autre chose. Vous voulez autre chose ? Vous allez avoir autre chose. Maintenant, soyez avec cette conscience, avec cette être-té, cette conscience d'être. Si vous avez du mal à la rejoindre, de nouveau essayez un instant d'arrêter d'être. Vous ne pouvez pas. Et vous êtes simplement avec... Ah tiens, je ne peux pas arrêter d'être. Donc il y a une conscience d'être là. Mais cette être-té, cette conscience d'être, elle est connue. Qu'est-ce qui la connaît ?
Elle-même.
Regarde.
Tu m'as voyant.
Une excuse.
Serre-toi de l'œil intérieur, il voit beaucoup mieux que les autres.
C'est connu.
C'est connu.
C'est connu, c'est pas.
C'est connu. Mais reste avec. La conscience d'être est connue. Qu'est-ce qui la connaît ? Je ne vous demande pas une réponse.
C'est métaphysique.
Je ne sais pas si vous sentez là, mais le mental est essoufflé. Quoi. Il y a... Ah, ah. Je peux rien en dire. Je peux rien en dire. C'est l'indicible, l'innommable, l'imprononçable, l'inconnaissable.
C'est un grand signe.
Il y a un mot qui est venu, moi, quand j'ai entendu cette question-là. Moi, c'est le nom de Dieu qui est apparu.
Ouais, mais Dieu, c'est un concept. Et en même temps, oui, pourquoi pas? On peut l'appeler Dieu. Mais pas en tant que personne. Alors, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler cela qui est, on peut l'appeler ce qui est, on peut l'appeler cela, on peut l'appeler...
La réalité, c'est on ne sait pas.
Ouais. Non, et ce point, on ne sait pas. Et en même temps, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a quelque chose. Et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est inconnaissable, insaisissable. On ne peut vraiment pas s'en saisir. On n'en a que le parfum. C'est là. C'est impossible de ne pas en avoir le parfum. Et c'est impossible à appréhender. Parce que c'est avant tout avant. C'est avant toute existence. Avant toute perception. Avant toute connaissance. En amondeur, avant c'est des mots, hein, les mots. Avant tout mot.
Oui.
Avant tout mot. Avant toute apparition.
M-A-U-X. Tout mot.
Ouais, ouais. M-O-T-S, M-A-U-X.
Une sorte de sommeil profond, conscient. Hein, chose comme ça.
Illumination. Donc quand vous dites il n'y a personne, il n'y a pas de moi, ça part de cette source-là. Parce que ça me heurte donc, quand vous dites ça. Alors que le fait d'être, je ressens, ça me convient, je l'accepte, mais de dire il n'y a personne, il n'y a pas de moi, ça me choque. Donc vous dites d'un autre endroit. C'est moi qui suis.
Non, je le dis des deux endroits. C'est-à-dire, à la fois en tant qu'être-té, il est bien, constaté qu'il n'y a pas de moi. Enfin, il n'y a pas l'idée d'un moi en tant qu'être-té. Et à la fois, à un moment donné, il est vu que la pensée moi n'est qu'une pensée, qu'une croyance. Et donc s'effondre en tant que croyance, puis en tant que pensée. Mais moi, en tant que. Je définis clairement le moi en tant qu'un individu séparé qui penserait par lui-même, qui agirait par lui-même, qui ferait des choix par lui-même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un organisme qui répond à un prénom et qui a des comportements. Ça, c'est indéniable. Ça existe. Il y a des actes qui sont posés, il y a des choix qui sont faits, il y a des pensées qui apparaissent. Mais il n'y a pas un moi qui fait tout ça. Une entité séparée, un individu séparé qui fait tout ça. Et ça, à un moment donné, c'est vu, clairement vu.
Il n'y a pas de sujet. Il y a quelqu'un qui décide, qui fait des actes.
En ce sens-là, oui. Mais ce qui est sujet. Les analystes lacaniens me font toujours rire quand tu parles des signifiants du signifiant. C'est ce qui est. C'est ce qu'on appelle nous ce qui est. Que d'autres appelleraient Dieu d'ailleurs.
Lacan, il avait quand même compris quelque chose. Quand il a dit le moi, c'est l'autre. Oui, c'est très important cette phrase. Parce que son Maryse, je ne me souviens plus comment elle s'appelle son nom de famille, c'est une femme qui était son maître. Et elle était très proche de l'éveil.
Mais bon, d'accord. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Je vois bien que c'est pas moi qui pilote quelque part avec ça.
C'est piloté.
Ça pilote, oui, ou c'est piloté.
Ouais.
Ça, je
retourne
clairement.
Ben alors
eh oui, c'est ça. Et donc
ben, c'est tout, c'est piloté. Mais quelle liberté.
Ah ouais, ça fait très bien.
Quelle liberté.
s'est amusé, moi j'ai des fois.
Pilote automatique.
T'as plus rien à prendre en charge, c'est piloté. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire, que tu dois rien faire. Évidemment que le pilotage va aussi faire des choses.
Oui, parce que j'ai cette sensation. Ce que j'essaie de faire, c'est de mettre. Ce qui n'est pas moi. C'est de mettre à disposition le corps et le reste par rapport à ce qui est piloté. De laisser faire. De laisser passer au
mais
travers.
Mais c'est trop, ça.
Ah, mais...
Pourquoi pas? Je dis, mais attention à ne pas prendre la tête avec ça. C'est-à-dire que le simple constat, c'est piloté, suffit. Ah, zut, c'est vrai, c'est piloté, tu vois.
Ah, mais ça déclenche rien, moi.
Mais il n'y a pas besoin, ça déclenche quelque chose.
Mais nous non plus, on attend.
Tu voudrais qu'il arrive quoi?
Là, que ça me détend. Comme tu dis,
mais
c'est
qu'est-ce qui te contracte?
Toujours cette notion de d'être en paix, tu vois, d'être, comme tu dis, cette légèreté, cette liberté, etc.
La notion d'être en paix te contracte?
Ah non, non, de l'inverse. C'est-à-dire que je me sens ni légère, ni libre, ni...
Mais c'est comment l'idée que c'est piloté? Ça crée quoi en toi?
Des réactions, par exemple. Ça crée aussi des ça me pousse.
Dans certains sens, c'est comment l'idée d'être piloté, enfin, de voir que tu sais piloter. Est-ce que c'est agréable, désagréable, neutre, tranquille, agité? Quand tu vois que c'est piloté.
Ben, j'ai l'impression que la croyance que je mets dessus, c'est que j'ai l'impression que c'est piloté, mais que j'arrête pas de me mettre en travers ou d'interférer ou de pas laisser le pilotage fonctionner.
Je répète ma question, le c'est piloté, ça crée quoi en toi? De l'agitation ou ça te renvoie au calme? Ou quoi d'autre?
Ça crée l'espoir que je sois tranquille, que je puisse me détendre. D'un coup, c'est piloté de toute façon. Donc, et de l'autre côté, en même temps, il y a une tension, qui, une espèce de peur. Il y a une espèce de peur en parallèle.
D'après...
C'est pas vraiment convaincu qu'on est piloté.
Exact. Mmh. D'après ce que tu dis, t'es pas... Mmh. C'est pas vraiment vu. Bien, c'est vu, mais il y a la peur de se tromper, et donc...
Ah, ça, c'est... Là. Ça, c'est ma grande angoisse.
La peur
de plus
contrôler.
Ah, c'est qui ce pilote, là?
Ouais.
Comme elle montre.
C'est un terroriste.
Oui, c'est qui cet autre pilote?
Pas la confiance.
Il y a un sentiment d'inutilité.
D'inutilité?
Oui, c'est-à-dire
Qu'est-ce que je vais faire? La musique.
Tu sers à rien?
Installe-toi en first class.
Ah oui.
Oui, quelque part, mais je dis, mais si c'est piloté, je suis quoi?
Ah, bonne question.
Quoi?
Je suis quoi, moi?
Qui suis-je?
Que suis-je?
Que suis-je?
Tout au mieux.
Je suis quoi? Ça renvoie à...
Ah, si c'est piloté, qu'est-ce que je suis, moi? Mais regarde!
Répète la question, s'il te plaît.
Si c'est piloté, Qu'est-ce que je suis ? Si les choses arrivent d'elles-mêmes sans moi, qu'est-ce que je suis ?
Pas grand-chose.
Si,
ce qui arrive, ce qui arrive de soi-même.
Je fais semblant d'être le pilote.
T'es tout.
La vie elle-même. La vie elle-même.
T'es tout, en fait.
Regarde, pour toi. Si l'organisme qu'on mental est piloté, que suis-je ?
L'organisme corps mental piloté.
Est piloté.
Je suis une marionnette.
En tant qu'organisme, sûrement. Explore le côté marionnette. Imagine, je suis une marionnette. Alors, reste avec ça. Ah, ben alors, je suis plus une marionnette. Ben, et alors, j'ai envie de dire.
Alors, c'est très énervant.
Pourquoi ?
Ben, il y a ce côté où on ne comprend pas très bien ce qu'on fait, ce qu'on nous parle, qu'est-ce qui nous pousse, tout ça. Qu'on s'ennuie.
Ben, il est temps de le réaliser que tu n'as jamais rien compris.
Ben, oui, mais ça m'énerve, moi. C'est mon côté contrôlant qui revient, mais...
Parce qu'il y a un refus de ne pas comprendre. Parce qu'il y a la volonté de comprendre.
Il y a un refus d'expérience. Je veux dire, moi je vais être marionnette, les mecs, mais que ce soit un peu plus sympa, là, parce que... si on veut faire les trucs,
il y a un refus.
Il
y a un refus. Regarde le refus, sois avec le refus. Comment il se manifeste dans le corps. Est-ce qu'il est insoutenable? Dans le corps ?
Oui.
Dans le corps ? Quelles sont les sensations corporelles du refus ? Quelles sont les sensations corporelles du refus ? Il y a une tension quelque part. Elle est insupportable ? Non.
Il y a de la joie et de... Enfin, c'est ambivalent. Il y a de la joie, il y a le refus, mais il y a un sourire de voir ce refus.
Ah, bonne route ça. Eh oui.
Le fait de réaliser que j'ai l'impression de maîtriser toutes les choses, oui, j'ai eu cette impression-là. Mais je suis renvoyé de plus en plus à cette évidence, et de toute manière, c'est pas moi qui décide.
Mais oui. Mais oui. Et c'est comment voir que c'est pas toi qui décide ?
Ça dépend des jours.
Ça dépend des jours.
Ça dépend vraiment des jours.
Quelle liberté.
Et pas de culpabilité.
Vous si vous saviez, bien sûr. Hein. Quelle liberté. Mais regarde le refus, Valérie. Regarde les sensations physiques du refus. Ne me dis pas que c'est insupportable. J'y crois pas une seconde. Oui, Jérôme ?
Non. Je te disais, elle a dit que c'était ici au niveau de son plexus. Mm-hmm. Sur le plexus, c'est simple.
Un combat. Il y en a un qui dit lâche tout parce que de toute façon tu maîtrises rien et l'autre qui a la main sur le bas. Ouais, c'est bien. Et le combat, il est là. Mais bon, comme je suis pilotée, alors autant que je me détende avant que ça se passe tout seul.
Non, ah oui, tu peux lâcher les
mains.
Et ça, j'arrive pas.
Le pilotage crée le combat aussi.
Donc on peut regarder le combat.
À nouveau, Valérie, tout cela est constaté, oui.
C'est constaté.
Et ceux-là qui le constatent, a-t-il peur ?
Il s'agace.
Non.
Il y a une partie dedans qui s'agace.
Il y a de l'agacement. Mais l'agacement aussi est constaté.
Oui, voilà, l'agacement est bien constaté.
Et ceux-là qui constatent l'agacement ?
Oui, ben c'est le...
Est-il pris par l'agacement ?
Ah, ceux qui est pris par l'agacement ?
Cela qui constate l'agacement est-il pris par l'agacement ?
Non.
Non.
Mais j'arrive pas à me placer.
Cela qui constate la peur est-il pris par la peur ?
Non.
Non. Celui qui constate le refus et la lutte intérieure est-il pris par le refus et la lutte intérieure? Non.
Non.
Stop. Reste avec.
Oui, mais reste
avec, alors. Je le ressens un peu comme... Il y a des moments où j'arrive très bien.
Mais là, tout de suite. Je ne sais pas, il y a des moments où je parle là tout de suite.
Là, tout de suite...
Qu'est-ce qui résiste?
Il y a une tentative de s'échapper du moment présent.
C'est trop de mots, ça.
Non, non,
c'est... Il y a une tentative de fuite. Pas besoin de moment présent.
Oui, de fuite.
Oui,
il y a un mécanisme de fuite.
Levez les doigts, ceux qui veulent fuir.
Il y a un mécanisme de fuite, il est constaté lui aussi. Regarde-le.
C'est fini. Le joker, on ne peut pas fuir, la pause déjeuner est passée. Le joker est, a été utilisé.
C'est enfantin, en fait, de vouloir fuir ce qui est là.
Ben, de fuir, ça ramène à une émotion. Comment ben, de regarder la fuite ramène sur l'émotion.
Laquelle?
C'est moi. Ah non, je recommence
à pleurer. C'est ok. Je constate. De la tristesse encore. Moi, il y a une voix en moi, c'est comme si c'est trop simple, je crois pas.
Oui, regarde ça, c'est juste une croyance, c'est trop simple, ça peut pas être simplement ça quand même, toutes ces années de recherche et d'incompréhension pour ça.
C'est
trop simple. Et si c'était simple comme ça? C'est Ramana qui disait c'est tellement simple. S'il avait raison.
Le contrôleur, bien que on peut le penser imaginaire, demande des garanties, ne fait pas confiance.
Oui.
La femme de lâcher prise ne démissionne pas. Tout le problème, c'est comment convaincre le contrôleur.
Oh, mais tu ne peux pas le convaincre. Il n'y a pas besoin de le convaincre. Il y a juste besoin de regarder qu'il y a une pensée de contrôle.
Le contrôleur, il demande des miracles.
Il n'y a pas de contrôleur. Il n'y a pas de contrôleur. Il y a une pensée de contrôle qui est crue.
S'il n'y a pas de contrôleur, quand même, ça se manifeste.
Il y a une pensée de contrôle qui est crue et qui a des conséquences.
Et la pensée de contrôle a réussi à contracter quand même de façon chronique les muscles dans
bien
le
sûr.
Corps, créer une cuirasse musculaire et psychologique.
Mais bien sûr.
Et donc, c'est vachement costaud quand même, j'en ai à faire.
Ah, mais bien sûr, les croyances ont des conséquences. Elles sont à l'origine de toutes les souffrances humaines. C'est pas difficile.
Est-ce que ça va dans le sens que le cerveau fait la différence entre ce qui est vécu réellement et ce qui... Ça, c'est un peu une neuroscience.
Quand tu rêves la nuit, tu y crois aussi. Hein.
Donc, en fait, ça,
parfois, tu vas voir un film et tu y crois. Donc, tu tombes amoureux et tu y crois.
Ça va dans ce sens-là, mais les sensations physiques apparaissent alors que c'est une grève. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a sensation physique que ça valide la pensée.
Exact.
En fait, ce que tu dis, c'est que le contrôleur croit contrôler. Il n'a jamais rien contrôlé.
Il n'y a pas de contrôleur.
Voilà. Donc,
ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de contrôleur.
Il y a la croyance dans le contrôle.
Il y a la croyance qu'il y a un contrôleur, il y a la croyance dans le contrôle. Et dans là, une possibilité de contrôle.
Et là, ça rend paranoïa, carrément.
Ouais, et surtout ça rend responsable avec des idées de responsabilité, de culpabilité, de comment faire, de comment pas faire, du bien, de mal, de, etc.
Peut-être que est-ce que ça serait tu vas dire que c'est une stratégie en pensant que l'être, en tant que contrôleur entre guillemets ultime, si on pense que c'est un super contrôleur, à ce moment-là, le contrôleur égoïque, il peut lâcher prise plus facilement.
Est-ce que les roses contrôlent la manière dont elles poussent?
Non, mais je comprends.
Est-ce que tu te contrôles quand tu es en train de faire l'amour?
Si je le fais, ça, je gâche tout.
Eh ben voilà, t'as tout compris. Eh ben la vie, c'est pareil. Elle contrôle pas, elle s'exprime naturellement, spontanément et de façon intelligente. Parce qu'on n'aurait jamais, nous, réussi à concevoir la manière dont fonctionne le corps humain. Avec tous les neurotransmetteurs, les hormones et ceci et cela. On n'est pas assez intelligent pour créer ça. Tu vois ? Mais la vie, elle l'a créé sans rien faire. Alors, je crois qu'on peut lui faire confiance. Sans contrôle. Ça s'est fait. C'est miraculeux.
Oui, donc, peut-être c'est pour ça que la tradition recommande ces allers-retours dans le réel de l'ego imaginaire, afin qu'il puisse finalement faire confiance et lâcher prise. Ce que tu appelles les visions, en fait, c'est rien d'autre qu'une construction progressive de la confiance pour le moi imaginaire, identitaire, afin qu'il puisse finalement, avec suffisamment de vision, un jour dire bon, maintenant je fais confiance, je lâche, je démissionne.
Mais s'il dit je, c'est quoi encore lui qui décide ?
Je ne sais pas, ça c'est trop pour moi, c'est trop mental.
Oui, mais le mental, il est rusé. Donc, il
faut justement, mais arrête de croire au mental, en plus. En plus, tu connais l'énéagramme, donc tu sais très bien que tout ça, c'est des réactions intellectuelles liées à une personnalité très spécifique.
Ah oui, mais moi, je célèbre la présence avec toi, donc c'est une...
Ouais, célébrons la présence, c'est pas de problème. Mais ne crois pas à tout ce que... à toutes ces histoires mentales, c'est juste des histoires mentales, c'est pas la peine. C'est pas la peine.
Oui, mais il faudrait un degré supérieur de ruse pour neutraliser la ruse du mental.
L'absence de ruse suffit. Voir que c'est une ruse suffit.
En d'autres termes, Kay, il recherche désespérément quelqu'un de plus intelligent que lui.
Non, il recherche désespérément à comprendre.
Non, oui, mais je rigole. Oui,
c'est pour moi une recherche désespérée de la enfin, désespérée, non, mais c'est une recherche constante de la compréhension intellectuelle. Parce qu'il y a la croyance que la compréhension intellectuelle permettra la réalisation. Non. Définitivement, non.
Oui, je suis d'accord. La compréhension intellectuelle, menée à sa limite, constate son propre impuissance.
Donc tu peux arrêter tout de suite d'essayer de comprendre, puisque ça mène nulle part. Et qu'est-ce qui reste ?
À mener à sa limite, à sa propre limite.
D'accord.
Mais pourquoi est-ce que c'est pas la limite ? Pourquoi est-ce que c'est pas
qu'est-ce qui reste ? Si tu abandonnes la compréhension.
Je peux arrêter de commenter parce que je peux même pas entendre.
J'ai oublié aussi. Si tu restes juste avec la compréhension intellectuelle, ne permet pas l'éveil. Donc, c'est pas la peine d'essayer de comprendre intellectuellement. Qu'est-ce qui reste ? Prends le temps de respirer.
Mais l'intellect reste pas tranquille. C'est...
Non, il reste pas tranquille.
Il faut lui donner un os à mâcher quand même. Il faut lui donner un os à mâcher.
Ça, c'est une croyance.
Sinon, il ne reste pas tranquille. Malgré, on a beau lui dire, tu arrêtes d'essayer de comprendre. Il continue.
Alors, je vais formuler autrement. Essayer de comprendre ne mène nulle part. Ça ne sert à rien. Comment c'est, si je te dis ça ? Comment ça vit en toi, ça ?
Ça dépend que si. Je t'écoute avec du niveau du réel, évidemment, bien sûr. Mais si j'écoute à partir de la sous-personnalité qui cherche à comprendre, lui, pour moi, la seule façon de l'amener à arrêter, c'est de le laisser aller à ses limites et
conserver
son impuissance. Et de nouveau, ça dépend de quel niveau on parle.
Eh oui, parce que pour moi, du niveau... qui sait très bien que ça ne sert à rien, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette pensée-là.
Je sais, pour moi, c'est... ce que je cherche dans ce que je te dis, pour moi, ce n'est pas forcément pour comprendre le réel. Parce que pour moi, c'est la...
Mais je n'essaye pas d'essayer de te faire comprendre le réel, là. J'essaie de te montrer la limite du mécanisme de pensée sur lequel tu t'appuies. C'est-à-dire, tu as tendance à t'appuyer sur les pensées. À penser que les pensées vont t'aider à résoudre les problèmes de l'existence, à être en sécurité, à contrôler, ou je ne sais pas quoi, tu vois. C'est-à-dire, tu te fies aux pensées. Et c'est cela que je remets en question, directement.
Non, parce que dans ce que tu dis, tu supposes qu'ici, il y a un seul moi. Alors que,
je suppose qu'il n'y en a aucun.
Bah justement, ça revient au même. Oui, je suppose, parce que. Mais la réalité, c'est qu'on peut avoir, être dans la présence, en même temps, avoir des centaines de moi, qu'on peut appeler sous-personnalité, etc.
Ah, sous-personnalité, en tant que sous-personnalité, oui.
Et chacun d'eux, il a une vision, un âge, une vision du monde, c'est un vocabulaire.
Oui, mais et alors
réclame son dû. Si tu écoutes, écoutes ici, tu vois qu'en fait, quiconque parle, c'est moi qui parle, ou c'est toi qui parle, parce que les sous-personnalités,
on les a. Et alors
ben, alors, je veux dire que. C'est pas, pour moi, ce n'est pas un problème. Si une sous-personnalité réclame quelque chose, ben, on doit nourrir, ce n'est pas grave. Même si on peut avoir la vision.
C'est vrai.
Alors,
c'est vrai.
Merci.
C'est vrai. Ça n'a aucune espèce d'importance.
Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils sont au sous-sol et ils tapent, parfois. Et alors, bah, je leur dis, ok, calme-toi, puisque Gérard est là, bon, bah, là, un os pour toi. C'est mieux que de les laisser affamer et ils tapent encore plus fort.
D'accord.
Quand il propose le regard, quelque part, dans le sens, c'est quelque chose de naturel, le fait de regarder, mais sans que ce soit rattaché à une attente de compréhension intellectuelle.
Exact.
Parce que moi, j'ai souvent entendu la notion de bon, il faut accueillir, mais dans cette, enfin, c'est moi qui il faut soyez accueillis. Et jusqu'à un moment, de très peu de temps, je pensais que dans cette RPI-là, il y avait quelque chose à faire. Et j'entends aujourd'hui que quelque part, dans ce regard, c'est simplement de revenir à quelque chose de naturel.
Exact. Et pareil pour l'accueil, en fait. Le problème, c'est qu'on est limité par les mots. Moi aussi, je dis « regarde ». Je pourrais dire « accueil ». Acquiesce à ce qui arrive, soit avec. C'est, à chaque fois, on est obligé de prendre un impératif parce qu'on n'a pas les mots pour le dire autrement. Mais c'est pour ça aussi, je précise, il n'y a personne qui peut regarder, c'est le regard qui regarde. Il n'y a personne qui peut accueillir, c'est l'accueil qui accueille. Il n'y a personne qui peut acquiescer, c'est l'acquiescement qui acquiesce. Etc. Tu vois, c'est à l'infini. Et en fait, c'est important de voir que tu as tout à fait raison de le souligner. C'est vraiment important de voir que c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est ce que je suis qui est en train de se manifester. C'est pas un faire.
Dans ce regard, il y a aussi ce que j'appellerais des résistances. C'est-à-dire qu'il y a des sensations qui peuvent être rejetées parce qu'elles sont intenses. Et il y a une contraction, il y aura des contractions de refus de ce qui se passe.
Et, oui. Mais c'est pas le regard qui refuse. Le refus apparaît, est vu par le regard, et apparaît au sein du regard. Enfin, c'est les mots.
Mais dans ce que tu proposais tout à l'heure d'amener le regard sur. C'est comme s'il y avait plusieurs objets à regarder en même temps. C'est-à-dire, il y a ça, mais non, mais s'il y a la résistance, voilà la résistance. De décaler constamment.
De tourner le regard vers ce qui émerge. Le plus près.
Oui, le plus près, voilà. Donc s'il y a par exemple un truc, la résistance, ben, c'est la résistance. Ici, il y a quelque chose encore. Ben, et ça permet une détente et un relâchement.
Exact.
Je pense.
Exact. Oui. Oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas à se forcer à maintenir le regard sur quelque chose. Je veux dire, tu vois, tu te promènes dans la rue, il y a un oiseau qui passe. Tu vas le regarder, c'est naturel. Tu regardes une peur, tu vois une résistance qui apparaît, ben, tu regardes la résistance. C'est pareil. Tu vois, c'est vraiment le même mécanisme. Être simplement là avec ce qui apparaît. Ah tiens, c'est ça. Ah ben non, tiens, ça a déjà changé. Ben, tu prends ce qui a changé. Il n'y a pas besoin de s'agripper à quelque chose.
Ben, tu vois, moi,
Au contraire.
Moi, je pensais que, par exemple, on dit des fois qu'une sensation emporte le regard et puis elle peut se transformer. Et j'étais dans l'idée, dans cette attente, que ça se transforme. Donc, je fige le truc quelque part.
Ah ben oui, parce que là, tu ne fais pas, tu te contentes pas de regarder, tu regardes pour qu'il y ait un changement. Alors que dans tout ce que je dis, même si ça amène des changements, c'est d'un après-coup, c'est un bénéfice secondaire. Alors que, simplement, c'est le regard pour l'amour de la vérité, je disais tout à l'heure, tu vois. Tu peux pas le faire.
Oui.
Merci. Merci de rigoler. Merci Valérie. Ça fait vraiment du bien à ce rire-là.
Échec total, rien ça fait rire.
Mais bien évidemment, qu'au moment où on réalise qu'on a toujours été en échec, il part rien. Il nous prend. À un moment donné, le jeu est vu, quoi.
Le jeu,
J-E-U. Voilà, oui, oh oui. Merci à vous tous.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.